voudrais vous raconter l'histoire d'une autorisation, ou plutôt l'histoire d'une femme. Qu'est-ce qui fait qu'un jour elle se lance? Et pourquoi ce jour-là? Qu'est-ce qui fait que sa vie ce jour-là poche d'un côté et pas de l'autre? Elle chante depuis toujours, mais pour elle. Elle ne se voyait pas sur scène à mettre sa vie en mots et en musique devant les yeux des autres. Et puis si, finalement, elle y monte sur scène et elle devient chanteuse. Elle devient même une chanteuse heureuse. Est-ce que c'est une décision? Quelque chose de tranché comme une résolution? Assurément non. J'aurais plutôt envie de parler d'une autorisation. Une autorisation, c'est plus doux, mais c'est en même temps très puissant. Une autorisation que l'on se donne à soi-même. À l'origine de l'art, de la créativité, on trouve souvent ce geste-là. S'autoriser à chercher au fond de soi et de ses blessures particulières quelque chose comme, peut-être, une vérité générale. À chercher au fond de soi et de ses hésitations personnelles quelque chose comme, allez, une vérité universelle. Mais qu'est-ce qui nous aide à nous autoriser ainsi à y aller? L'urgence parfois, et puis parfois pas. Le plaisir simplement, le désir, l'admiration peut-être aussi, l'envie pourquoi pas de rejoindre une famille. S'il l'a fait, lui, Vincent Delerme, alors pourquoi pas moi? Et s'il l'a fait, lui, Alex Baupin, alors pourquoi pas moi? L'admiration donne des ailes au désir, et puis parfois, je le sais bien, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on penche d'un côté et pas de l'autre. On fait juste un tour du pâté de maison, un tour de plus que les jours d'avant. Et puis, quand on rentre chez soi, la chose s'est imposée, comme une évidence qui se fait jour, comme une chanson d'amour. Et c'est très bien comme ça, cette beauté penchée, ce truc qui s'impose doucement, tendrement, qu'il y a juste à cueillir, à accueillir. Comme des instants, des photos de famille qui vont se retrouver finalement sur vos albums, sur vos playlists. Pour en parler ce matin, de tout ça, de cette autorisation et de cette tendresse, de l'amour aussi et de la lucidité, j'ai la joie de recevoir la chanteuse Clio, auteur, compositeur et interprète, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, pour nous accompagner notamment sur le chemin de cette question, la lucidité et l'amour peuvent-ils faire bon ménage?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Clio.
Bonjour.
J'aurais presque envie de vous dire bonjour avec votre prénom et votre nom, mais ils sont cachés?
C'est mon prénom, c'est mon vrai prénom.
C'est votre vrai prénom?
Ouais, alors il n'est pas caché du tout.
D'accord, et c'était pas un... Donc moi je pensais qu'il y avait une référence à la muse, enfin peut-être chez vos parents, à la muse de la mémoire.
Ouais, mais c'est pas moi qui ai choisi la référence.
D'ailleurs, éclairez-moi un peu, c'est la muse de la mémoire ou de l'histoire, c'est ça?
J'aurais dit de l'histoire.
De l'histoire,
oui. Ouais.
Bah justement, dans vos chansons, il y a beaucoup d'histoires, de petites histoires. Votre dernière... album porte pour titre L'amour hélas, et c'était d'ailleurs un titre qui donne la note comme ça à toutes ces chansons. Vous qualifieriez ces chansons plutôt de réalistes, de pointillistes, comment vous les qualifieriez?
Ben, peut-être un peu des deux, parce que je pense qu'elles sont réalistes, mais j'essaye quand même d'écrire un petit peu en pointillé, en faisant plutôt des images que des descriptions trop précises des choses. Donc à la fois réaliste et pointilliste, ça me semble assez.
Ouais, et puis on va l'écouter, on va en écouter pas mal. Il y a c'est réaliste, et puis soudain ça s'envole un peu, ça décolle, il y a quelque chose de, comme une délicatesse. Mais et c'est un peu ça qui m'intéresse. Il y a quand même quelque chose d'un peu dur en même temps, je trouve. Notamment l'idée que vous avez de l'amour, de l'indépendance dans l'amour aussi, de la lucidité dans l'amour. Est-ce que vous avez conscience d'écrire des textes faussement tendres?
Ah oui, parce que j'ai l'impression que si on écrit des choses trop tendres, c'est comme une guimauve, c'est un peu trop mou, et du coup c'est quand même plus rigolo d'ajouter un peu de dureté à tout ça. Oui, je pense, je le fais exprès.
Vous le faites exprès, mais ça... on va tout de suite écouter un exemple parce que je pense que on va mieux savoir de quoi on parle. C'est une chanson T'as vu qui n'est, je crois, pas sur le dernier album, mais sur celui d'avant, c'est ça, sur l'avant-dernier. Chanson que j'aime beaucoup, mais qui me fait un peu souffrir par procuration.
J'ai fait des tours autour de la maison, fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond, j'ai shooté dans tous les cailloux des environs, puis je suis rentré à la maison. J'ai fait des tours autour de la maison, fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond, j'ai shooté dans Salut, ça va? T'as vu, je suis là. Oui, mon téléphone, il était ici. J'aime pas quand il sonne, je l'avais pas pris. Je faisais pas la gueule, mais j'étais bien toute seule. J'étais bien toute seule. Allez, ça va. Je suis là. J'ai fait des tours autour de la maison. Fumais beaucoup, mouillais mes joues, touchais le fond.
Alors voilà, Clio, c'était un extrait de Ta Vue, qui est sorti de l'album Déjà Venise, album de 2019. Je trouve que ça dit bien ce que vous faites, quelque chose de doux et dur à la fois.
Bah oui, c'est une chanson à la fois c'est une chanson d'une amoureuse qui rentre à la maison et qui à la fois n'est pas tout à fait gentille et compréhensive avec son amoureux. Donc elle est douce et tendre à la fois.
Et c'est souvent le cas dans vos chansons.
Ouais, je crois que c'est souvent le cas. Je sais pas très bien pourquoi, mais j'ai toujours. Enfin, je crois que c'est pareil qu'en amour. On n'a pas très envie de ni d'être trop gentil ni d'être trop méchant. Et du coup, dans les chansons, il y a toujours un côté un petit peu ironique et un petit peu dur pour le garçon. Il est jamais très très bien loti dans mes chansons.
Ouais, c'est vrai que on pense à lui parfois. On a l'impression que. Que vous êtes sur le fil comme ça d'une. Vous avez dit ironie, mais justement, voilà, l'ironie. Je mets quelques instants ma casquette de prof de film, ça ne durera pas. L'ironie, c'est un rapport distancié au réel. C'est quelque chose d'un peu sec, qui parle plus à l'intelligence qu'au cœur, en fait. Alors que vous, il y a de l'ironie, et puis soudain, on a une présence qui revient, quelque chose de tendre. Donc c'est ce balancement que je trouvais très intéressant entre la dureté et la tendresse. Je voudrais revenir à. La question que j'avais envie de vous poser au début, vous avez toujours fait de la musique, mais pas vraiment dans une famille de trois enfants. Les deux autres faisaient plus de musique que vous, et vous vous y êtes mis assez tard, je crois, à passer la vingtaine. Qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi vous avez franchi le pas? Qu'est-ce que vous avez senti en vous comme ça?
Ben en fait, moi non, j'ai pas du tout fait de musique avant, même pas du tout, voilà, vraiment pas du tout. J'ai juste constaté que c'était pas forcément très rigolo pour mes frères et sœurs de devoir retourner un peu à l'école après l'école. Et, ouais. Et moi je m'y suis mise très tardivement avec une guitare en découvrant les cahiers de chansons dans lesquels il y a juste les accords et où il y avait plein de vieilles chansons que j'aimais bien. Et j'ai toujours
par exemple
C'est surtout les chansons dans ce genre de carnet. Il y a beaucoup de Le Forestier, de Souchon, de Moustaki, tout ça. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir les chanter avec une guitare. C'est quand même assez facile, la guitare, quand on a juste au tout début, ça permet assez vite de s'accompagner.
Ouais.
Et puis du coup, comme moi, j'aimais beaucoup écrire depuis toujours.
Oui, c'est ça,
j'avais plein. Ouais. J'avais plein de petits morceaux de texte ou de grands morceaux aussi. Et je me suis dit que peut-être que si je mettais des petits accords de guitare sur mes textes et que j'essayais de chanter dessus, ça pouvait faire des chansons. Et en fait, très vite, ça a vraiment ressemblé à des chansons. Et je me suis rendu compte que c'était tout à fait ce format d'écriture qui me plaisait. Et c'était vraiment assez évident et ouais, j'ai rencontré le fait d'écrire des chansons, mais en fait, ça s'est jamais arrêté depuis. C'est un vrai une trouvaille, quoi. Ça m'accompagne toujours.
Et finalement, donc vous évoquiez Souchon dans vos influences. On a failli prendre la chanson de Souchon comme pour donner un titre à cette émission, à savoir La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Je pense que vous connaissez cette belle chanson. Oui. Si vous deviez trancher et choisir l'une des deux parties de la phrase. Ce serait « La vie ne vaut rien » ou « Rien ne vaut la vie »
ah, c'est super dur, mais je crois que choisir une partie sans l'autre n'a plus aucun intérêt. Du coup,
je veux dire que ma question est un peu conne. C'était une mise en situation comme ça. Alors, votre thème, c'est quand même l'amour, hein, finalement, enfin, en tout cas dans les deux derniers albums, beaucoup. Je vais vous faire réagir à des définitions de l'amour apportées par les philosophes. Je vais en prendre 3-4. Je voudrais juste savoir si vous êtes d'accord avec eux. Donc, on va commencer par Alain Badiou, un philosophe que vous connaissez peut-être, un philosophe français encore vivant, qui dit que ce qui est beau dans l'amour, c'est qu'on n'aura jamais fini de faire le tour de la différence de l'autre.
Ben oui, moi je suis assez d'accord que l'autre, en tout cas, peut-être pas tous les autres, mais en tout cas, il y a un moment où on rencontre un autre, si on est un petit peu chanceux, qui parvient à toujours nous nous surprendre un peu, ou en tout cas, moi j'ai l'impression que il y a certaines personnes qu'on rencontre avec lesquelles on peut converser pendant des heures sans s'ennuyer jamais, et peut-être que ça peut durer très longtemps dans la vie. Et la différence de l'autre, c'est aussi ça, c'est aussi pouvoir parler avec quelqu'un.
Oui, et aussi c'est aussi quelqu'un qui nous échappe, qu'on n'arrive jamais vraiment à saisir, jamais vraiment à posséder, alors que souvent dans une histoire d'amour, on a des petits possessifs, mon amour, mon bébé, comme si on voulait quand même comprendre, posséder l'autre. Alors que peut-être il y a un incompréhensible qui demeure. Il m'a semblé, c'est pour ça que je vous ai fait réagir à ça, que dans vos chansons, la narratrice, quoi, je sais bien que c'est un personnage, elle dit souvent un peu ça indirectement. Je cherche pas à comprendre. En fait, je suis parti. Voilà, dans cet exemple-là, elle part la nuit marcher. Je crois que visiblement, elle le trompe même pas. Elle est juste bien toute seule. Elle a même pas envie de se justifier. Elle a laissé son téléphone. C'est une manière de dire, tu peux pas tout comprendre. Voilà, cherche pas. Mais je suis là.
Bah oui, complètement. C'est, enfin ouais, c'est même si on est bien avec quelqu'un, on reste complètement quelque chose tout seul, et on peut pas être deux tout le temps. Et moi, ça, c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup.
D'ailleurs, vous le dites dans la chanson, je suis bien toute seule, c'est tout. J'étais bien toute seule.
Ouais, c'est ça.
Et c'est très dur d'entendre j'étais bien toute seule sans le prendre pour soi. Enfin, ou contre soi. Mais pourtant,
on
devrait y arriver.
Mais c'était ça c'est exactement ça qui m'intéressait dans cette chanson. C'était de dire que finalement, elle a rien fait de grave du tout. Mais elle avait juste, à ce moment-là, pas de. Enfin, voilà. Juste le fait de continuer d'être dans sa tête et de pas avoir envie d'être avec l'autre. Et c'est pas forcément ni une trahison, ni un écart d'aucune sorte. Mais...
Alors, autre philosophe, encore vivant, lui aussi, il est même assez jeune, Fabrice Midal, philosophe qui est aussi un maître de méditation. Il a créé l'école française de méditation. D'ailleurs, il a été à ce micro il y a quelques semaines. Il a écrit un livre, Et si de l'amour ne savait rien, pour dire que, au fond, l'amour, on ne sait pas ce que c'est, et c'est pour ça qu'on peut être amoureux. Est-ce que ça vous parle?
Bah oui, je crois que c'est de toute façon quelque chose un peu, enfin, c'est une sorte d'ombre après laquelle on court tout le temps sans trop savoir ce qu'elle cache. Enfin, c'est.
Je tombe amoureux, ça c'est souvent. Ça s'entretient, les sentiments. Mais t'en fais pas. Tout ce qui est pas toi, je n'y touche pas. Je tombe amoureuse, mais t'exagères. Ça mérite pas toute cette colère. Amoureuse, mais tu comprends. C'est plus comme un médicament. T'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai le cœur qui bat, ça s'arrête là. Je tombe amoureuse tous les trois jours. Je crois que j'ai des facultés pour. Il doit y avoir par là-dedans des récepteurs assez puissants. Je tombe amoureuse tous les mardis et malheureuse le mercredi. Qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je deviens, moi, si j'ai plus de chagrin demain. Amoureuse, amoureuse.
Alors Clio, j'ose une interprétation, mais vous me dites si je me trompe. Si j'ai bien, non pas compris la chanson, c'est pas le terme, mais écoutez, en fait, être amoureuse n'est pas exactement aimer.
Ah non, pas forcément, mais là c'est un amour assez, dans ma chanson c'est un amour assez égoïste, c'est juste l'idée de...
Un petit crush qui réveille, quoi.
Ouais, c'est ça, qui donne un petit peu, qui fait un petit peu de soleil dans les journées. C'est pas l'amour, oui, c'est pas l'amour au sens, enfin c'est les petits amours du quotidien, disons.
Ouais, on est en train de, on entend bien, on commence à repérer votre patte. Comment ça se passe en concert?
Eh ben,
je dis ça parce que vous avez donné pas mal de concerts, vous avez repris là après le Covid, il y en a eu cet été, il y en aura à l'automne. Notamment cette date le 15 novembre
oui.
À la Cicale avec Martin Luminet en première partie.
Et, oui.
et donc, comment vous vivez la scène, vous qui au début n'envisagiez pas d'y monter?
Non, la scène ça a été assez dur au début pour moi, mais et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais moi je le prends comme une période où je sais que je fais ça parce que je fais mon petit métier de chanteuse et ça fait partie du métier. Mais je pense que je ferai pas forcément ça encore très très longtemps, j'en sais rien. Mais en tout cas, là je sais que j'ai des chansons que j'ai envie de partager avec les gens, et il y a des moments de concert où moi j'essaie toujours de faire en sorte que ce que je raconte soit vraiment au premier plan dans les concerts. C'est pas des concerts où on va sauter dans... enfin de toute façon c'est... je fais pas des chansons où on saute dans tous les sens, mais c'est vraiment très très axé sur le texte et le récit des chansons. Et et il y a des moments de dans les concerts où je sens que certaines chansons vont tout droit sur dans la tête des gens, et c'est des moments très beaux qui sont assez irremplaçables. Enfin je veux dire, c'est vrai, très différent d'une chanson enregistrée quand on la chante directement pour les gens et que les mots viennent s'inscrire directement en eux. On le sent, il y a quelque chose qui se passe, qui est... même si ça donne le trac, c'est quand même des moments magnifiques.
Vous avez une patte au sens, je dirais, de l'entêtant. Il y a quelque chose qui reste un peu entêtant, comme ça, un peu dont on se défait pas facilement. C'est pour ça que je me demandais si en concert ça pouvait donner quelque chose de particulier, et peut-être aussi presque de plus énervé. J'avais imaginé, moi je vous ai pas vu en concert, que cette espèce de délicatesse un peu précise pouvait en concert devenir un peu plus peut-être un peu plus nerveuse, peut-être un peu plus rock, non?
Mais j'aimerais bien, mais en fait je crois que fondamentalement je suis pas rock, et je suis pas, enfin je suis nerveuse mais pas en public. Ouais. Et du coup c'est aussi pour ça que il y a peut-être que j'aimerais bien être autrement, mais en tout cas j'ai pas je suis pas cap d'être plus rock'n'roll. Et mes chansons, je pense qu'elles aimeraient bien des fois, mais elles sont pas tombées sur la bonne chanteuse.
C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est peut-être ça résume votre position de chanteuse. Peut-être c'est ça que vous dites souvent dans vos chansons, je ne suis pas cap. On va écouter Marinero.
Thank you.
C'était Marinero, Through the Fog.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Clio, la chanteuse, on dit byzantine, c'est ça? Qui vient de Besançon?
Byzantine.
Et son dernier album, L'amour est là, sorti en 2021. Et nous reprenons cet échange philosophico-musical autour de l'amour. On a déjà parlé d'Alain Badiou, de Fabrice Midal. Je voudrais vous soumettre une autre définition de l'amour qu'on trouve chez Hegel, enfin Hegel et Sartre, qui disent qu'en fait, on a vraiment besoin de reconnaissance. On a besoin de se voir validé, pour parler comme Booba, par l'autre. Et que dans l'amour, le problème, c'est que chacun en demande trop à l'autre, en fait. Chacun demande à l'autre de voir son existence complètement justifiée, d'avoir son sens, le sens de sa vie qui est clair parce qu'il est aimé. Et au fond, on se bat comme ça, chacun demandant à l'autre, au fond, une chose impossible à donner.
Mais je ne sais pas si c'est si impossible à donner que ça, moi. Enfin, bien sûr, de justifier tout. Toute la vie de quelqu'un, peut-être pas, mais moi je crois, enfin je suis sans doute un peu naïve de ce côté-là, mais j'ai quand même l'impression que il y a des rencontres amoureuses où on a l'impression de mettre ses pieds dans un chemin tranquille et qu'en effet, ça, si ça justifie pas tout, ça justifie d'une certaine façon les journées quand même et le temps qui passe. Enfin, ça, en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir été complètement tranquillisé, peut-être que ça, oui, ça justifie pas la vie, mais ça, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même quand on fait une grande rencontre.
Tranquillisé.
Oui, parce que accompagné dans le temps qui passe avec quelqu'un, enfin la confiance, c'est ça, ça tranquillise.
Mmh. l'ennui, c'est quelque chose d'important pour vous d'abord dans la vie, et puis pour créer, pour que viennent les mots, pour que viennent les chansons.
Oui, moi j'aime bien m'ennuyer. Enfin, j'aime bien pas forcément m'ennuyer. Justement, j'ai l'impression de jamais tellement m'ennuyer, mais le temps vide, j'en ai besoin beaucoup. Et marcher sans but, beaucoup aussi.
Ouais, ça apparaît souvent dans les chansons d'ailleurs. Mais on peut s'ennuyer avec la personne qu'on aime sans que ça devienne.
Bah ouais, je pense que c'est la clé de. C'est une des choses qui. C'est un des signes. Pour moi, en tout cas, c'est une des raisons qui fait qu'on se dit qu'on est bien avec quelqu'un, c'est qu'on peut s'ennuyer et partager l'ennui et le silence sans que ce soit du tout grave.
Alors, dans votre discographie, on trouve pas mal de duos, et puis pas des moindres. Dans le dernier album, il y a un duo avec Iggy Pop, tout simplement. Je crois qu'il a beaucoup insisté pour faire cette chanson avec vous.
Ouais, ça faisait quelques années qu'il...
Il y avait aussi un duo avec Fabrice Luchini, un duo dans l'album précédent avec Ours. Qu'est-ce que vous recherchez comme ça dans ces duos? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez dire quand vous êtes deux que vous ne pouvez pas dire quand vous êtes seul?
Ben moi j'aime bien la conversation. J'ai toujours envie d'écrire des conversations en chanson et du coup une conversation tout seul. Je le fais beaucoup finalement. Je converse beaucoup toute seule dans mes chansons, mais j'aime bien l'idée de personnes qui se racontent quelque chose et d'avoir deux points de vue. Enfin, de points de vue différents, le duo, et ça permet ça, et ça permet aussi d'avoir une voix différente, donc ce qui apporte tout un pan différent dans la chanson.
Pour en moi, tout cas, dans votre duo avec Iggy Pop, l'appartement, donc, c'est très intéressant, comme les voix comme elles vont bien ensemble, comme elles se répondent en étant complètement différentes. Vous montez très haut. Il y a quelque chose d'un peu qui frôle. Enfin, il y a un risque, je trouve, dans votre façon de monter très haut. J'imagine qu'on vous a déjà peut-être comparé à Jane Birkin, à des femmes comme ça qui prennent le risque presque de la fausseté, en fait, en montant très haut, mais sans jamais tomber dedans. Et lui, c'est Iggy Pop avec sa voix très grave, très posée. Comment ça s'est passé, cette rencontre, et comment il a accepté?
Eh ben, en fait, j'avais écrit cette chanson qui s'appelle donc L'appartement. Et qui, pour le coup, est une chanson qui parle d'à peu près rien d'autre que le pur bonheur amoureux simple du quotidien. Et je pense que je cherchais aussi un relief à tout ça, parce que justement, il n'y avait pas trop de relief dans une chanson un petit peu trop douce. Et du coup, j'imaginais un duo avec une voix qui, elle, apporte un relief. Et là, on peut dire que j'ai été servie. Mais En fait, je rêvais d'une voix masculine avec un accent comme ça et précisément, je rêvais de la voix d'Iggy Pop qui chante en français parce que j'adorais son disque où il chante en français.
Ah oui, il chante
des vieux classiques, ouais. Des chansons françaises. C'est magnifique. Et du coup, j'ai dit ça un petit peu à mon entourage que je rêvais de cette voix. Et c'est mon manager qui a écrit au manager d'Iggy Pop en se disant que de toute façon, il fallait bien essayer des choses dans la vie. Et son manager a transmis et Iggy Pop a répondu très très gentiment, très vite, qu'il était d'accord pour chanter la chanson. Et il a posé sa voix incroyable dessus, encore beaucoup plus bas que ce qu'on imaginait au départ. Il a fait, on n'imaginait même pas qu'on pouvait chanter aussi bas cette chanson.
Bah si toutes les choses de la vie pouvaient se passer comme ça, ce serait bien.
Bah oui, c'était exactement, c'était d'une simplicité.
Mais il avait quand même écouté ce que vous faisiez.
Je pense oui, parce qu'en plus il m'a écrit, j'en suis sûre, parce qu'il m'a écrit plusieurs choses sur d'autres morceaux et tout ça, donc il a eu un vrai intérêt. J'ai toujours du mal à le croire quand je le raconte, mais...
Bah justement, on va écouter Iggy Pop et on va comprendre pourquoi c'est dur à croire. I am a passenger. Pas mal ce petit morceau. Est-ce que ça vous arrive en écoutant Iggy Pop d'avoir oublié que vous avez fait ce duo avec lui, de l'écouter encore comme avant en fait?
Bah oui, moi ça fait. En plus, on s'est pas encore rencontrés en vrai, donc pour moi c'est encore complètement quelque chose de. C'est une voix qui est arrivée comme ça, pouf, qui s'est installée sur ma chanson, mais j'ai beaucoup de mal à faire le lien entre Iggy Pop et moi, je dois dire.
C'est marrant. Vous savez ce qu'elle raconte cette chanson, The Passengers?
Ben non.
Moi non plus, mais j'ai toujours pensé qu'elle voulait dire qu'on est des passagers, c'est-à-dire qu'on est de passage, que rien ne dure, que tout est éphémère, qu'on ne fait que passer et qu'il faut peut-être essayer d'en profiter comme ça le temps du passage. Ça veut peut-être dire ça?
Ben ouais, en tout cas, si c'est ça, moi j'adhère aux propos.
Alors vous êtes pas mal influencé par certains cinémas, Eric Rohmer, Christophe Honoré. Et je voudrais vous faire écouter un son que vous devez connaître, peut-être. J'imagine que vous avez vu ce film, parce que je crois que ça nous parle de l'amour d'une manière qui est assez proche de vos textes.
Et je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête, mais je le sais. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es? Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes. Une petite bleue et une petite blanche au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour l'Europe, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune ou l'oubli. David, César sera toujours César, et toi, tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre. Et qui m'aime sans me vouloir.
C'est beau ça, hein, César et Rosalie.
Bah ouais, c'est mon film préféré.
Mais c'est incroyable comme on retrouve dans ce film quelque chose qui est présent chez vous. C'est-à-dire c'est très beau, c'est très élevé, quoi. C'est très noble, c'est très tendre. Et en même temps, c'est très dur, c'est très violent.
Ouais, c'est ça qui est très beau. C'est qu'on voit, on voit à quel point elle les aime tous les deux et à la fois elle est terrible avec l'un et avec l'autre. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est un film où on... Enfin, moi, je suis vraiment tombée amoureuse des trois personnages et je trouve qu'on peut le regarder mille fois en découvrant toujours des nouvelles choses sur le sentiment amoureux.
Ouais, mais vous pensez qu'on peut y arriver à cette à ça ou alors c'est que dans le film?
À aimer.
Je veux dire, si on est de son point de vue à elle, à aimer les deux, mais si on est de leur point de vue à eux, à accepter d'être deux, en fait. Puis à la fin, ils finiront tous les deux, d'ailleurs.
Mais justement, sans dans elle. Le film, on y croit, parce que eux aussi, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, finalement. Mais ils ont eu de la chance que ça se passe comme ça. Je sais pas si ça peut exister en vrai. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, Yves Montand, il tombe amoureux de Sammy Frey, et inversement, et cette fin, elle est géniale.
Elle est incroyable, ouais. C'est cette. Donc je précise pour tous ceux qui nous écoutent, même si tout le monde connaît ce film, à la fin, donc ils sont tous les deux, ils vivent ensemble des années après. Et puis elle est partie. Et bah, d'ailleurs, elle revient leur rendre une petite visite, mais finalement, ils vont rester tous les deux.
On ne sait pas d'ailleurs. Je crois que ça se finit quand elle ouvre la porte, qu'il la voit arriver, mais on ne sait pas si elle va finir par s'installer avec eux ou si elle va repartir en les voyant aussi heureux tous les deux.
C'est ça qui est beau. Moi, je l'interprète comme le fait qu'elle va repartir. Et vous?
Ben, moi, j'aime bien me laisser la possibilité d'une chambre pour Rosalie chez César et David.
Finalement, vous n'abordez pas la jalousie si très frontalement dans vos chansons. Elle affleure, mais elle n'est jamais abordée très frontalement.
Non, parce que je trouve ça assez moche. De toute façon, tout le monde trouve ça assez moche, mais... Elle y est quand même dans certaines chansons, mais toujours. Enfin, on n'est jamais très fier d'être jaloux, donc moi je le dis pas trop quand je suis jalouse, donc je le raconte pas non plus.
Il y a quand même pas mal de belles chansons là-dessus, hein. Notamment une chanson d'Arnaud. Vous connaissez cette chanson où il dit quelqu'un a touché à ma femme, un truc comme ça. Il répète cette phrase comme un possédé 15 fois. Il y a aussi Jealous Guy des Beatles. Il y a Jalouse. Je suis Benjamin Biolay aussi, je suis jaloux de tout. Peut-être qu'un jour, vous allez y aller.
Ah bah oui, sans doute.
Alors, puisqu'on parlait de ce duo avec Iggy Pop, cette, vous ne l'avez pas rencontré, mais la chanson est quand même là et on va l'écouter.
Une guitare et des fleurs. bien sûr, la fenêtre ouverte laisse passer, un parfum peut-être, c'est la pluie d'été. Comme dans ce tableau, tu sais,
comme dans ce poème où il pleut et il semble.
Comme dans ce tableau, tu sais,
comme dans ce poème où il pleut. Tu dis qu'il pleut toujours.
Toi, tu ne réponds rien.
Qu'il pleut mon amour.
Qu'il pleuve mon amour.
Sous le soleil de Platon.
Je sens que tu m'aimes plus.
C'est vrai, je t'aime plus. Il n'y a rien à expliquer, je t'aime plus.
Hier, tu m'aimais encore?
Oui, beaucoup. Maintenant, c'est fini.
Il y a bien une raison?
Oui, sûrement.
Laquelle?
Je sais pas.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Clio, nous venons d'entendre ce très très beau duo avec Iggy Pop, donc L'Appartement, sur votre dernier album L'Amour Hélas, et puis ce son du mépris là.
Oui, elle j'étais pas sûre que c'était ça.
Ouais, c'est le mépris. Alors, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Faut pas chercher à tout comprendre, notamment l'autre, notamment l'amour. Et là, c'est quand même un peu dur quand même. Elle lui dit qu'elle sait pas pourquoi. Elle l'aimait hier, mais pas aujourd'hui.
Mais c'est toujours un peu comme ça. Hein. Il y a un beau jour, on se réveille et puis pouf, on n'aime plus. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas comme ça. Mais c'est beau aussi. Quand c'est aussi brutal.
Ça dépend, ouais. Ça, en tout cas, il s'agit de réussir à, encore une fois, se tenir quoi, devant ce mystère, au fond. Et presque, c'est le but d'une sagesse, au fond, d'y arriver. Mais nous, on est fait pour comprendre, pour élucider, pour raisonner. Et d'ailleurs, il y a une de vos chansons, « Ai-je perdu le Nord ?», qui est intéressante de ce point de vue-là. On a l'impression qu'effectivement, on ne sait plus trop où on est. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir à cet échange entre la philosophie et la chanson, puisque dans les définitions de l'amour que les philosophes proposent, il y a aussi cette définition, toute une tradition qui remonte à Platon. En fait, dans l'amour, on cherche sa moitié, au fond. On cherche à se compléter avec ce qui nous manque. Vous pensez plutôt que dans le sillage de Platon, on est attiré par l'autre qui nous manque, ou alors plutôt qui se ressemble s'assemble?
Ben moi j'ai l'impression qu'on est attiré par l'autre, mais qu'à la fois s'il ne ressemble en rien, ça peut pas fonctionner non plus. Je pense que c'est là toute la difficulté. Je pense que ouais, bien sûr, on cherche quelque chose de complètement, on cherche quelque chose de différent et de dépaysant. Mais si il faut qu'on retombe sur ses pattes sur certaines choses.
Vous voulez dire que si on ne se ressemblait pas un petit peu, on pourrait pas être séduit par la différence?
Ouais, je pense.
C'est assez marrant, vous avez employé le mot dépaysant. Et c'était une des questions que je voulais vous poser, cette fois dans le sillage de Gilles Deleuze, qui dit, voilà, en fait, tomber amoureux de quelqu'un, c'est rencontrer un paysage. C'est pas une personne, un homme ou une femme, c'est un paysage qu'on va déployer, qu'on va déplier. Et cette personne, elle est dans un paysage associé à plein de choses, des goûts, des souvenirs, des amis, des parents, une famille. Et donc, on n'aime jamais une personne, on aime tout le paysage qu'elle contient, et tous ceux avec quoi elle est en relation. Est-ce que ça vous parle, cette philosophie de l'amour de Gilles Deleuze?
Ben en tout cas, je pense que c'est pas facile d'aimer absolument tout le paysage de cette personne. Mais en effet, une personne, c'est un paysage avec tout un passé, un futur, toutes les personnes autour. Mais je pense que aimer une personne, c'est pas forcément aimer tout ça à la fois.
Alors justement, on va écouter votre chanson « Ai-je perdu le Nord » pour voir si on arrive toujours à se repérer dans ce paysage.
Je voulais tout laisser à Paris, je trouvais que rien valait le coup. Je voulais partout à Paris, si je trouvais que rien n'avait de goût. J'ai coupé court à tout, je voulais jouer les voyous. Rien dans les portes, je claquais la porte, je voulais jouer les casse-cou. Et je suis partie de partout, je me suis perdue tout le temps. Arrivée je sais pas où, je sais pas pourquoi ni comment.
C'était Ai-je perdu le Nord, qui est sur le dernier album, hein, c'est bien
oui.
Ça. Je trouve ça très bien écrit. Vous écrivez comment ? Vous écrivez d'abord un texte, qu'après vous essayez de mettre en musique ? Vous êtes porté par la musique pour écrire un texte ? Ou alors toute autre méthode avec des images, je sais pas.
Non, j'écris vraiment au départ les deux en même temps. Enfin, c'est-à-dire que la naissance d'une chanson, en général, c'est une phrase qui... Une phrase qui s'installe sur une phrase mélodique.
Mmh.
Et ensuite, je crois que écrire la musique installe aussi les idées de ce que j'ai envie de raconter. Et une fois que j'ai une structure assez claire de ma chanson et de ma musique, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur le texte dans un second temps. Mais je fais jamais les choses complètement séparément. C'est très, très lié.
Vous savez, dans la théorie esthétique, on oppose deux idées du beau, le beau comme adéquation et le beau comme inadéquation. Donc le beau comme adéquation, ça veut dire en gros que les mots tombent parfaitement dans la musique, qu'il n'y a pas de décalage, il n'y a rien de bancal, tout va parfaitement ensemble. Et l'idée de l'inadéquation, c'est qu'au contraire, ce qui fait la beauté, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas très bien ensemble. Du coup, je vous pose la question à la fois par rapport à vos chansons, mais aussi par rapport à la vie, aux gens que vous aimez, aux tableaux que vous aimez, aux musiques que vous aimez. Vous aimez quand c'est adéquat ou quand c'est inadéquat ?
Ben un peu des deux, mais en tout cas dans les chansons, c'est une question qui se pose, notamment pour les questions d'arrangement, parce qu'on peut choisir une musique électronique où tout va être millimétré, et c'est le choix que j'ai fait sur les deux derniers disques. Ouais. C'est pas forcément un choix évident. Parce que
vous avez tout fait toute seule d'ailleurs ?
Non, du tout. Moi, j'écris les chansons et après, j'ai une équipe formidable d'arrangeurs qui travaille dessus. Mais décider de choisir des arrangements très électroniques, c'est du coup s'éloigner de tout ce qui peut être un petit peu vivant et humain dans la musique. Mais à la fois, moi, c'est ce qui me plaît parce que je trouve que tout ce côté humain, du coup, se concentre sur la voix. Enfin, c'est elle qui porte, du coup, moi, qui porte toute seule ce côté-là. Et je trouve que ça la met en valeur d'une autre manière. Mais je pense que... Ouais, c'est une question fréquente pour plein de choses, hésiter entre le parfait et le... Et les défauts qui font le charme des choses. Mais bien sûr qu'en général, on préfère les défauts qui font le charme des choses.
Ouais, ou alors, comme vous avez dit tout à l'heure, on aime la différence que sur le fond d'une ressemblance minimale. Peut-être qu'on aime le défaut que sur le fond d'une absence de défaut global. Peut-être. Vous, cette voix, votre voix fragile, je dirais, qui prend des risques, qui monte haut, qui tremble un peu et qui retombe sur ses pieds, vous la travaillez beaucoup ou alors elle est comme ça naturelle ?
Ben non, elle est comme ça. Je l'ai pas travaillée. C'est pas parce que je trouvais qu'elle était bien comme ça. C'est parce que j'ai jamais totalement pensé que j'allais être chanteuse avant de faire des chansons. Et du coup, je suis arrivée avec cette voix-là et elle est restée comme ça. Elle correspond à ma voix parlée. Enfin, ça ressemble. Je change rien. Je fais pas beaucoup d'efforts sur le choisi, mais je veux dire c'est ma manière de chanter.
Et pour devenir chanteuse, vous avez renoncé à autre chose ? Vous avez tourné des pages ?
Non, pas du tout.
Non.
Non, en fait, moi je savais que j'allais écrire dans la vie et je savais pas sous quelle forme. C'était juste ça qui me manquait pour savoir qu'un peu où avancer. Et du coup, j'ai rencontré les chansons pile au moment où on doit faire des choix un peu importants dans sa vie d'adulte. Et j'ai pris ce chemin-là et je ne me suis pas arrêtée pour l'instant.
Oui, je m'étais trompé parce que c'est en écoutant une chanson qui porte pour titre « Elle voudrait ». J'avais donc projeté le titre de cette chanson sur toute votre existence. Et j'avais imaginé que pendant longtemps, vous aviez voulu, enfin, rêver, et puis, un peu comme dans la chanson de France Gall, je l'ai tant rêvé que j'y suis arrivé, mais en fait, non, je m'étais trompé.
Personne ne voit qu'elle pleure. Personne ne voit qu'elle pleure. Pendant qu'elle marche des heures, elle parcourt tout Paris, les yeux rivés par terre, elle sent même pas la pluie qui tombe sur ses Chester, ses Chester. Pendant qu'elle marche des heures, pendant qu'elle marche des heures, personne ne voit qu'elle pleure. C'est pas à cause de l'automne, l'automne elle s'en fout, c'est la faute de personne. Ça vient d'elle sait pas où, quand elle marche pas, elle nage. Des heures sous l'eau, c'est l'avantage. Personne ne voit qu'elle pleure. Personne ne voit qu'elle pleure. Pendant qu'elle nage des heures.
Elle voudrait un volcan dans son cœur. Alors cette chanson, elle, quand vous la réécoutez comme ça, vous pensez à quoi ?
Je pense à moi dans pas mal de périodes de ma vie.
Vous avez beaucoup marché.
Ouais, ça, je marche beaucoup. C'est...
Vous composez en marchant ?
Un peu, oui, dans ma tête. Mais en tout cas, c'est... Je pose plutôt les choses que je suis en train de composer. C'est des moments où je réfléchis beaucoup à tout ça et où je m'imprègne aussi de toute la vie autour, mais ouais, je crois que ça fait vraiment partie des choses très très essentielles à mon bien-être, en tout cas.
Vous connaissez la chanson de Ben Mazuet, Je marche ?
Oui.
Elle est pas mal, hein ?
Ouais.
J'en profite pour recommander à tous les auditeurs d'écouter cette chanson et d'acheter aussi un excellent livre de philosophie, mais très accessible, qui s'appelle « Marcher » de Frédéric Gros, où on trouve la version philosophique de ce que vous venez de raconter là. Pourquoi cette chose si simple, marcher, nous remet comme ça en harmonie avec soi, avec le monde et avec les autres? Pourquoi marcher fait venir les idées, les paroles, les rites, les harmonies? Donc voilà, je répète, « Marcher » de Frédéric Gros, en écoutant évidemment Clio et aussi Ben Mazuet, « Je marche ». Vous avez un concept complet pour finir l'été. Et pour finir l'émission, je vous propose un petit quiz, Clio, un quiz avec des réponses courtes et un quiz sans piège. Alors Clio, Orelsan ou Booba ?
Non, Orelsan.
Pourquoi ? Ça fait 2 mois, enfin ça fait 40 émissions que je fais, on répond tout le temps à Orelsan.
Oh. Ah bon ?
Moi j'ai grandi avec Booba, mais je sais pas. Personne n'aime Booba, c'est fini ?
Si, mais... Non, dans le personnage, moi j'ai vraiment de la sympathie pour Orelsan et pour... ouais, non, vraiment, j'adhère okay. Beaucoup plus.
Souchon ou Delerme ?
Ah, Souchon. Enfin, c'est pas... c'est pas forcément éliminatoire, mais non, je suis vraiment... j'ai une admiration sans borne pour Alain Souchon.
Joie ou bonheur ?
Ben, bonheur, bien sûr, parce que c'est plus durable. Mais
ça existe peut-être pas.
Oh, ben si, moi j'ai envie quand même de penser que ça existe. En tout cas, moi j'ai l'impression d'être plutôt dans le bonheur, hein, je dois dire. Donc,
Barbara ou Piaf ?
Barbara, complètement. Enfin, j'aime bien Edith Piaf, bien sûr, mais Barbara, pour moi, c'est...
Nantes ou quand reviendras-tu ?
On dit quand reviendras-tu ?
Paris ou Besançon ?
Bah Paris.
Et vous êtes revenu à Besançon, je crois, après avoir quitté cette ville pour Paris, c'est ça
hein ? Ouais, mais je suis revenu parce que j'ai des enfants petits et qui sont plus heureux loin de la grande ville.
Stone ou Beatles ?
Beatles.
Pourquoi ?
Mais il y a un côté plus gentil garçon et moins rock'n'roll. Et moi, je suis jamais très très rock'n'roll.
Tristesse ou mélancolie ?
Mélancolie. J'aime bien la mélancolie.
Merci beaucoup Clio. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sous le soleil de Platon.
Ben merci à vous.
Je recommande votre album, enfin le dernier en tout cas, L'amour hélas. Les autres aussi bien sûr, hein, Clio et Déjà Venise. Et je précise que vous serez en tournée à l'automne dans pas mal d'endroits, et notamment le 15 novembre à La Cigale avec en première partie Martin Luminé, que d'ailleurs nous avons reçu à ce micro. Donc tout le monde à La Cigale le 15 novembre. Et je vais essayer de résumer pour nos auditeurs, comme c'est la tradition dans cette émission, la philosophie de la vie qui est la vôtre. Alors évidemment une philosophie de la... Bah en fait du bonheur, paradoxalement, c'est la première fois depuis tous ces invités que quelqu'un se déclare heureux, au fond, ça fait du bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un livre, très très bon livre de François Bégodeau. Alors sur Mick Jagger, je sais que vous n'êtes pas très rock'n'roll et c'est pas grave, mais il y a un point commun, c'est que François Bégodeau raconte que c'est la seule rockstar heureuse. Et ça s'appelle, je crois, une rockstar heureuse. Et il dit que voilà, c'est une façon aussi de faire de la musique, une façon de trouver des harmonies, des mélodies. On n'est pas toujours dans la souffrance, on n'est pas toujours dans la détresse, dans l'espèce d'agressivité. Et quelque part, c'est ça un peu que vous nous avez laissé entendre, dans vos mots, et puis aussi dans toutes ces chansons qu'on a entendues, et qui nous ont permis de bien vous rencontrer. J'aurais aussi envie de dire une philosophie douce amère, voilà, clair-obscur. Ça a l'air tendre, ça a l'air doux, et puis c'est quand même un peu dur à un moment. Il y a quelque chose d'un peu honnête aussi, j'ai envie de dire, d'un peu lucide. Et on a répondu à la question finalement qu'on posait au début, la lucidité est compatible avec l'amour, elle est surtout compatible avec des belles chansons. Merci beaucoup Clio de nous avoir accompagnés sous le soleil de Platon. Cette émission a été réalisée par François Audouin avec à la technique Victor Ouvrard, à la programmation musicale Valentine Chedebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Aurore Juvenel et Estelle Gap. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h exactement dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon.